question de la propriété, plus particulièrement la question des propriétés intellectuelles, comme longue ouverture au cœur de ce que je vais traiter, qui est la question de l'individualisme associatif. La propriété intellectuelle est un objet, propriété intellectuelle, c'est un objet juridique intéressant, parce qu'il n'y a pas de consensus sur sa définition dogmatique, ni sur sa légitimité d'ailleurs. Donc ça, tout ça reste très contesté. Et c'est ce qui fait que c'est une branche du droit qui est directement ouverte aux questions philosophiques, à la différence de tout un tas d'autres branches du droit qui sont désormais essentiellement technicisées. Donc il y a quelque chose qui s'est créé comme un sous-champ scientifique que les anglo-saxons appellent Philosophy of Intellectual Property, avec des colloques, des sites web, des passages, des pages entières qu'on s'est réservées dans les revues. Et c'est un champ qui est très balisé, il faut dire, très structuré et lui aussi très technique. Dans ce champ circulent plusieurs cartographies, et sur les questions en débat, les acteurs, les théoriens en présence, et toutes ces cartographies tournent autour de la même idée, c'est qu'il y a coexistence entre au moins trois grandes stratégies de justification des propriétés intellectuelles. La première, c'est l'idée que les créations sont le fruit du travail de leur créateur, et donc sa propriété par droit naturel, et le héros fondateur de cette stratégie est évidemment John Locke. La seconde, c'est l'idée que les créations sont l'expression de la personnalité de leur créateur, et par déduction rationnelle, sa propriété. Le héros fondateur de cette stratégie, c'est Hegel. Et la troisième, c'est l'idée que les créateurs doivent être incités à créer parce qu'il est utile, parce que ce qu'ils créent est utile à la société, et pour ce faire, il est donc utile, pour les inciter, il est utile de leur reconnaître des droits de propriété sur leur création, et le héros fondateur de cette dernière stratégie est évidemment Bentham. C'est ce qui fait que Bentham se retrouve au cœur de débats passionnés sur la définition et sur la justification des propriétés intellectuelles. Alors, au premier abord, ce constat est tout à fait surprenant, parce que sur le plan philosophique, Bentham est indéniablement en rupture avec les approches juste naturalistes ou juste rationalistes, j'appelle juste rationaliste, disons, l'idéalisme allemand contre Hegel, tout ça. Et quand on en vient aux usages sociaux de la doctrine, c'est-à-dire quand on en vient à l'inscription de la doctrine de Bentham dans des stratégies savantes de justification d'un certain nombre d'institutions de droit, on se rend compte de quoi ? On se rend compte du fait que ça revient au même. Alors, il y a à la fois une rupture philosophique très notable, et à la fois il y a des usages savants, hein, pas seulement des usages courants, qui semblent revenir au même. Et ça, c'est le point de départ de ma réflexion. Comment se peut-il que les théories aussi différentes que celles de Locke, Hegel ou Bentham puissent produire les mêmes effets quand on les réinscrit dans des stratégies de justification ? Alors je vais vous proposer l'hypothèse suivante, qui est une hypothèse un peu lourde. Donc je vais prendre du temps pour exposer les tenants et les aboutissants avant d'en arriver à Bentham, je m'en excuse par avance, qui est que par-delà des visions du monde qui sont très radicalement hétérogènes, ça c'est indéniable, par-delà la rupture introduite dans la conceptualisation même de la propriété, Bentham reconduit fidèlement un dispositif conceptuel précis. Et il se trouve que ce dispositif conceptuel précis est la matrice commune des trois stratégies de justification précédentes que j'évoquais à propos des propriétés intellectuelles. J'ajoute aussi que je pense que ce que je raconte va au-delà de la question des propriétés intellectuelles. Je pense qu'il s'agit en fait d'une discussion sur la justification des institutions du capitalisme de maturité en général. Donc je vais d'abord essayer de décrire ce dispositif, et donc je ne parlerai pas de Bentham dans la première partie, je m'excuse par avance. Ensuite, je vais aller le chercher chez Bentham, et ça ne va pas être simple. Et puis après, je vais en tirer comme conclusion, en espérant ne pas dépasser les 40 minutes chèrement conquises dans un deal que je vous raconterai à l'occasion avec mon ami organisateur du colloque Guillaume Tussaud. Alors, en quoi consiste ce dispositif ? C'est l'implication réciproque entre identité personnelle, liberté subjective, propriété de soi, qui à la fois fonde et cause la propriété de la personne sur les fruits de ses activités libres. Être une personne, c'est-à-dire être identique à soi-même, être un sujet libre, et être propriétaire de soi sont trois propositions équivalentes, d'où il découle que la personne est propriétaire des fruits de son activité libre, propriétaire de ses créations. Mon hypothèse consiste à affirmer que les trois principales stratégies de justification des propriétés intellectuelles reposent toutes sur cette prémisse anthropologique, que j'appelle self-ownership. Propriété de soi, self-ownership. Alors, ainsi formulée, il faut évidemment préciser l'hypothèse parce qu'elle paraît à la fois grossière et fausse. Première précision, qu'est-ce que j'entends exactement par self-ownership ? En général, l'usage courant de l'expression désigne un droit naturel de propriété sur soi-même, dont on peut exciper devant un juge, même sans titre. C'est la définition de droit naturel. C'est la définition que Nozick en propose. Elle me semble très restrictive. Elle rend éventuellement compte de la déclinaison locale du thème, pas du tout de la version hegelienne, par exemple, alors que je pense que Hegel est un théoricien majeur de self-ownership, lui. Chez Hegel, en effet, il y a propriété de soi, non pas au sens juridique du terme, mais il y a quelque chose comme une appropriation spirituelle de soi. C'est-à-dire que le sujet se saisit lui-même comme sujet libre et se constitue comme personne dans ce processus. Hegel parle de saisie de soi, de maîtrise de soi, de possession de soi, il parle même de propriété interne. Mais, évidemment, tous ces termes doivent être utilisés dans un sens qui est un sens spéculatif et non pas juridique. J'en conclus qu'il y a au moins deux définitions du self-ownership. L'une qu'on pourrait qualifier d'anthropologique, un self-ownership anthropologique, qui désigne le processus d'auto-appropriation spirituelle de soi constitutif du sujet libre, et l'autre, plus directement juridique, qui désigne les droits de propriété de ce sujet libre sur sa personnalité et les éléments constitutifs de sa personnalité, son corps, ses idées, ses opinions, ses convictions religieuses, etc. Alors maintenant, je crois que il n'y a pas à trancher entre ces deux définitions. Il y a plutôt à regarder comment elles s'articulent, et donc, contrairement à l'utilisation restrictive du terme self-ownership à la Nozick, je crois qu'on peut utiliser le terme self-ownership de manière plus large. Et maintenant, je vais développer un peu ce point. Comment ça s'articule? Je crois que, selon la conception qu'on se fait du self-ownership anthropologique, on n'a pas le même self-ownership juridique. Et je vais développer ce point à partir de Locke et Hegel. Alors, je ne vais pas vous raconter Locke et Hegel en large et en travers, mais chez Locke, le sujet libre se construit en prenant conscience du fait que ses actions passées et présentes sont les siennes. C'est-à-dire en rapportant consciemment les actions passées et présentes à un self unique. Pour désigner ce self, d'ailleurs, Locke va mobiliser un terme juridique, celui de personne, et il utilise explicitement le terme appropriation pour désigner la constitution de ce rapport d'identité subjective que réalise la conscience de soi entre les actions passées et les actions présentes. Et il ajoute que c'est donc la conscience de ses propres actes qui permet de dire que cette personne est libre, dans le sens où elle est consciente de ses actes, et donc dans le sens où elle peut en répondre. On trouve bien un rapport d'équivalence entre les trois propositions réciproques dont j'ai parlé, identité personnelle, conscience de soi, liberté subjective, propriété de soi, appropriation consciente de ses propres actes. Donc en prenant conscience de lui-même, le sujet devient une personne libre. Cela étant, chez Locke, il ne cesse de rester ce qu'il ne peut cesser d'être, c'est-à-dire une créature de Dieu. Et chez Locke, le créateur, ça James Tully le montre très bien, est le propriétaire de cette créature. Le sujet libre est donc à la fois propriété de Dieu en tant qu'il est une créature divine, et à la fois propriétaire de lui-même en tant qu'il est conscient de lui-même. Locke parvient à penser cette relation en mobilisant implicitement, c'est implicite, mais c'est quand même, ça fonctionne très bien, au fond, le schéma qui préside à l'institution juridique du trust. Le trust est une propriété pour autrui, en français on dirait une fiducie, et le sujet lockéen est donc à la fois propriétaire de lui-même, c'est-à-dire libre, mais il est propriétaire de lui-même pour Dieu, c'est-à-dire pour réaliser ses desseins sur terre. Donc la propriété de soi est à la fois inscrite dans et soumise à la loi naturelle. C'est pourquoi Locke peut à la fois écrire que « every man has a property on his own person » et à la fois qu'il ne peut pas disposer de lui-même, par exemple, il ne peut pas se suicider, ou parce que ce serait contraire à la loi naturelle qui commande sa conservation. Donc la principale conséquence de cette propriété de soi, c'est que, je cite la formule célèbre, « the labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his ». Chaque homme est donc propriétaire des fruits de son travail, parce qu'il est propriétaire de lui-même. Ce qui est vrai du travail manuel est aussi vrai du travail intellectuel. Les propriétés intellectuelles sont de droit naturel. Le dispositif me paraît donc très clair. Implication réciproque de l'identité personnelle, de la libre subjectivité et de la propriété de soi, ça constitue le self-ownership anthropologique, qui est à la fois fondement et cause d'un droit de propriété sur les activités libres du sujet libre. Chez Hegel, on retrouve ce dispositif, c'est hallucinant, on retrouve ce dispositif, il y a bien un moment lockéen chez Hegel, ça paraît très clair, sauf que, en fait, il n'est pas du tout pensé de la même manière. La principale différence, c'est que chez Hegel, la philosophie du sujet est une philosophie de la volonté plutôt qu'une philosophie de la conscience. Le sujet libre chez Hegel, c'est la volonté qui saisit elle-même comme infiniment libre. Une volonté voulant vouloir, si parabole de côté un peu abstru. C'est difficile de ne pas être abstru quand on parle de Hegel, hein, parce que ce n'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Dans ce sens, la constitution du sujet comme sujet libre est explicitement, chez Hegel, je le disais, un processus d'auto-appropriation spirituelle de soi. Hegel parle de saisie de soi, de possession de soi, et ça s'achève dans une véritable propriété interne sur les éléments constitutifs de la personnalité, que sont la liberté, l'honneur, le corps, les idées, les convictions religieuses. Mais, seconde grosse différence entre Locke et Hegel, il précise que cette propriété interne n'est pas une propriété juridique, parce que le droit ne régit chez Hegel, post-ancien, que les rapports extérieurs, et que le rapport entre moi et moi est un rapport intérieur. Donc la propriété interne doit être comprise comme un rapport strictement philosophique qui relève au fond de la psychologie spéculative. Et cette différence spéculative en hegelien, ça veut dire philosophique. Cette différence est énorme. Autant on peut chercher les prodromes de la liberté, de la propriété libertarienne de soi, au sens donc nosique, chez Locke, en le bousculant un peu, cela dit, c'est-à-dire en oubliant Dieu, autant Hegel est un opposant fervent à ce genre de thèse. Si vous allez expliquer à Hegel que vous êtes propriétaire au sens juridique de votre corps, il va se mettre à hurler. Il n'en est pas moins un considérable théoricien du self-ownership. D'autant que, et ça c'est ce que les commentateurs de Hegel ne soulignent jamais, la propriété interne chez Hegel n'est certes pas une propriété juridique, mais elle n'est pas du tout dépourvue de portée juridique. Et c'est quoi qu'on puisse dire. Elle a des implications directes dans le monde du droit. D'abord, elle fait obstacle à l'appropriation des éléments de la personne par des tiers. Si mes idées, mon corps, etc. ne peuvent pas être la propriété d'autrui, c'est parce qu'il y a cette propriété interne. Ensuite et surtout, la propriété interne est susceptible de s'extérioriser. Et c'est exactement ce qui se passe quand un auteur publie ses livres, par exemple. Quand je publie un livre, eh bien, j'extériorise mes idées. Et ces idées, c'est toujours un rapport interne entre moi et moi, c'est toujours mes idées, c'est toujours ma propriété interne, mais en même temps, c'est aussi devenu, quant à leur expression, quant au discours qui les porte, un objet extérieur. Et une fois extériorisé, cette propriété interne devient un rapport juridique au sens technique du terme, c'est-à-dire un droit de propriété. Ce droit de propriété, et ça il faut le souligner, n'est pas le même que le droit de propriété des biens matériels. Pourquoi ? Parce qu'il reste quelque chose d'interne dedans. C'est ce quelque chose, c'est qu'il reste quelque chose de la personnalité de l'auteur dans l'objet extériorisé, et ce quelque chose doit être considéré comme inaliénable. C'est la naissance, au fond, de l'idée de ce qu'on appelle les droits moraux. C'est l'idée des droits moraux inaliénables de l'auteur. Et donc, chez Hegel, l'auteur peut se réserver ce que le droit appelle les droits moraux sur son œuvre, alors que dans la propriété des biens matériels, c'est une propriété absolue d'user et d'abuser, un dominium in plena potestas. Voilà, donc plusieurs grosses différences entre la théorie de Locke et la théorie de Hegel. Loin de moi l'idée de ramener Hegel à Locke, il faudrait être vraiment fou. Mais enfin, tout de même, on retrouve chez l'un et chez l'autre un dispositif d'implication réciproque ou encore d'équivalence de l'identité personnelle, la liberté subjective et la propriété de soi, d'où découle, comme fondement et cause, la justification de la propriété de ce sujet sur ses propres créations, y compris ses créations intellectuelles. Et donc, on comprend assez bien pourquoi les auteurs aussi différents que Locke et Hegel se retrouvent impliqués dans les stratégies de justification des propriétés intellectuelles. Bref, c'est pas du tout pareil philosophiquement, mais du point de vue de la justification des propriétés intellectuelles, ça revient au même. Comme chez Locke, chez Hegel, le self-ownership anthropologique se dit dans le langage du droit. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut souligner. Chez Locke, le rapport de conscience de soi que j'ai avec moi-même, ça s'appelle une appropriation. Et on désigne le self constitué par ce rapport d'appropriation comme person. Et d'ailleurs, explicitement, Locke dit, j'emprunte ce terme, au barreau. Chez Hegel, pour désigner ce rapport d'auto-appropriation spirituelle de soi, là encore, quels sont les termes ? Possession, propriété interne, c'est-à-dire qu'on va mobiliser le vocabulaire du droit des biens pour désigner un processus anthropologique, un processus de psychologie spéculative dans un cas, ou un processus anthropologique dans l'autre. Ça, c'était ma première précision. J'entends donc self-ownership comme l'existence de dispositifs conceptuels. Deuxième précision. Est-ce que ce que j'appelle self-ownership, ça a un rapport avec la célèbre théorie politique de l'individualisme possessif de MacPherson, le bouquin publié en 1962, dans lequel MacPherson cherche à faire une généalogie du libéralisme et identifie le libéralisme comme étant ce qu'il appelle theory of possessive individualism, et au cœur de cette possessive individualism, il y a un modèle en 7 points, Virgil. Alors, il défend l'idée, Macpherson, que se constitue au cours du XVIIe siècle en Angleterre, le Hobbes à Locke, en passant par Harrington et les Levelers, un modèle en 7 points, qu'il appelle possessive individualism. Alors, est-ce que c'est ce dont je parle quand je parle de self-function? Réponse, oui et non. Non, parce que je crois que j'adopte une conception beaucoup plus sophistiquée du self-ownership que lui. Celle de Macpherson, au fond, se réduit à ce que je disais de la définition libertarienne, analogique, propriété de soi comme propriété juridique de soi. Chez moi, c'est quand même compliqué, il y a de l'anthropologie, il y a du droit, ça s'articule, ça prend du temps, c'est pour ça que j'ai négocié avec Guillaume. Non, parce que Macpherson inscrit sa théorie dans une généalogie du libéralisme, et que personnellement, je ne sais pas très bien ce que c'est que le libéralisme. Moi, je me contente ici de parler de stratégie de justification du capitalisme, ce qui est beaucoup plus étonnant. Je disais stratégie de justification des institutions du capitalisme de maturité. Donc, qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends un système de libre-échange des droits de propriété, et ça me paraît être une définition assez minimale, alors que lui, il met tout dedans. Il met la démocratie libérale, il met le marché, il met tout un tas de choses. J'ajoute que je suis assez convaincu par les critiques des historiens, particulièrement de l'école de Cambridge, quant au fait qu'on ne retrouve ce modèle en 7 points ni chez Hobbes, ni chez Harrington, ni chez les Levelers, quoique ni chez Locke. Non encore, parce que la théorie politique de l'individualisme possessif de Macpherson est un modèle en 7 points qui mélange tout un tas de choses dont je disais qu'elles étaient à mon avis très hétérogènes. Moi, je ne retiens que le troisième point du modèle, c'est-à-dire le self-ownership, la propriété de soi, et encore dans un versant beaucoup plus sophistiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, j'adopte une position, une conception. Enfin, je dépolitise. C'est-à-dire que j'écarte explicitement toutes les références au modèle du marché libre, à l'accumulation d'immunité et surtout l'idée d'un état minimal dont la finalité politique est la défense de la propriété. Voilà, donc si je croise tout ça, ça donne que la prémisse anthropologique du self-ownership joue un rôle central, au sens où j'entends, joue un rôle central dans la justification de l'institution du capitalisme de maturité, mais que le capitalisme de maturité peut par ailleurs très bien s'articuler à des institutions politiques très différentes. Des régimes autoritaires, des régimes libéraux, des régimes républicains, et que donc il n'est pas question de la généalogie libéraliste. Il y a quand même un gros oui massif. Le gros oui massif, c'est que je trouve que Macpherson a eu une intuition qui me paraît extrêmement profonde, qui est que la liberté du sujet moderne se pense, se conçoit dans un rapport d'appropriation de soi par soi. Et qu'il se dit dans le vocabulaire du droit des biens. Le fait que le vocabulaire du droit des biens, le fait que la grammaire de la propriété soit l'horizon de la subjectivité moderne, soit l'horizon de la liberté subjective moderne, me paraît être une intuition extrêmement profonde qui mérite d'être prise très rapidement. Donc, quand je parle de self-ownership, c'est peut-être une théorie d'individualisme possessif, mais très revisite. Alors maintenant, je vais essayer de montrer qu'on trouve ça chez Bentham, et là, je me heurte à une difficulté et une objection. La difficulté, elle est énorme, c'est que Emmanuel Deschamps, ici présent, a montré le contraire dans un article que je trouve excellent, et tous ceux qui s'intéressent aux études benthamiennes savent que essayer de montrer quelque chose avec lequel Emmanuel Deschamps n'est pas d'accord est une tâche extrêmement délicate. On excuse par avance, je crois que je ne vais pas y arriver, mais c'est quand même essayé. Quant à l'objection, c'est une question préjudicielle, et elle n'est pas moins abyssale, c'est que je viens de brasser tout un tas de notions, self-ownership, sujet libre, identité personnelle, propriété de soi, etc. Tout ça, chez Bentham, ça n'existe pas. Ce sont des fictions. Il n'y a pas de moi, il n'y a forcément pas de moi naturel. La propriété, la possession, l'appropriation, tout ça sont des fictions. Et donc, il n'est même pas certain qu'on puisse trouver chez Bentham une anthropologie. Voilà, comme je suis devant vous et qu'il est trop tard pour reculer, ixodus. Alors, Bentham est donc est la propriété de soi. Alors, d'abord, la question préjudicielle. Bon, c'est très très difficile d'inscrire Bentham dans une tradition commune avec Locke et Hegel, parce que chez lui, justement, c'est la position du problème humain qui change. Chez Locke, on se demande à quoi ressemble l'homme à l'état de nature, on fait de la psychologie naturelle. Chez Hegel, on se demande à quoi il ressemble au moment d'entrer dans la sphère du monde objectif, on fait de la psychologie spéculative. Chez Bentham, on ne se pose pas du tout la question de savoir ce que serait le substrat anthropologique, naturel ou spéculatif que le droit devrait exprimer pour être juste. On se demande quel est le sens des mots. Et ça, ça introduit un changement considérable de l'univers. D'ailleurs, ça se traduit dans les débats sur la propriété intellectuelle et sur la justification de la propriété intellectuelle. Il y a un débat absolument célèbre que je trouve très très rigolo entre Frank Michael Mann, qui est un constitutionnaliste libéral, c'est-à-dire de gauche en américain, professeur à l'université de Harvard, et Harold Demsetz, qui est une des figures prééminentes de l'école de Chicago, un des Chicago's Boys dont parlait Emmanuel ce matin. Michael Mann faisait le reproche à Demsetz, et donc derrière lui à toute l'école de Chicago, l'école néolibérale, de n'avoir pas réussi à montrer que le capitalisme était efficace et de ne pas avoir trouvé un principe éthique universel qui le justifierait moralement. À quoi Demsetz écrit un article très suggestivement intitulé « Professors Michael Mann, Unnecessary and Futile Research for a Philosopher's Touchstone » dans lequel il montre que, oui, effectivement, il n'y a pas de principe universel éthique qui permette de justifier le capitalisme. D'ailleurs, ça n'est pas le problème, personne n'a jamais dit ça. La seule chose que dit l'école de Chicago, c'est que, d'abord, on n'a pas du tout besoin de fonder le capitalisme pour le justifier. La seule chose dont on a besoin, c'est que, ces alternatives, socialisme, féodalisme, état de nature, anarchisme, tout ce que vous voulez, ne sont pas plus fondées éthiquement, et que deux, ça marche mieux. Et il suffit de montrer que ça marche mieux pour que ce soit justifié. Autrement dit, un peu à la Churchill, il suffit de montrer que le capitalisme est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres pour le trouver justifié. Là, il y a quelque chose dans cette stratégie de justification qui est assez bentamienne, et c'est pas très étonnant d'ailleurs, parce que l'école de Chicago se réclame assez volontairement d'un Bentham très 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 revisité, il faut dire. Enfin, ça c'est une autre affaire. Je crois que vous un papier tout à fait sidérant de Posner sur Bentham et Blackstone, qui fait assez bien le point sur comment on peut utiliser Bentham en droit quand on est un conservateur américain qui veut faire la révolution réganienne, sans tout de même sombrer dans ces fallacies démocrates dans lesquelles Bentham est, parce qu'on est quand même un conservateur américain. Donc, la question, c'est, on justifie en se demandant quel est l'agencement normatif le plus utile et en se demandant quel discours sera le... Enfin, en produisant un discours de justification qui portera sur la pertinence des mots et sur l'efficacité des règles. Ça, c'est très 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 loin de l'œuvre et de Dieu. Donc, il faut commencer par l'étude des mots, non pas quel est le rapport entre le self et la propriété chez Bentham, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire self et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire propriété chez Bentham. Alors là, j'avais trois pages dont je vais vous faire grâce sur la théorie des fictions chez Bentham. Je n'ai rien à dire d'original, je m'inspire entièrement de ce que Jean-Pierre Clairon ici présent a dit, et donc je vous renvoie à ces ouvrages qui sont à la fois très savants, très illuminants, je ne sais pas, très stimulants. Et je me contente de dire que... qu'est-ce que je me contente de dire ? C'est quand même que je dise une ou deux choses. Je me contente de dire ce qu'on a déjà dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a des entités réelles et il y a des entités fictives, il y en a des bonnes et des mauvaises selon l'usage qu'on en fait. Tout le problème est de distinguer les bonnes entités fictives des mauvaises. Les bonnes et les mauvaises se distinguent essentiellement de ce qu'il y en a qui produisent de mauvaises croyances, c'est-à-dire des croyances dans le fait que l'image qu'elle véhicule est un être existant réel, alors que ce ne sont que des outils qui sont... utile pour accélérer le raisonnement ou accélérer le discours. Ça se parle. Et que on arrive à les distinguer à travers le test de la paraphrase. Je n'en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que chez Bentham, le terme propriété est une fiction. Si je dis que la propriété est un droit naturel, le droit naturel absolu d'une personne sur une chose, c'est une mauvaise fiction. C'est une fallace, parce qu'il n'y a pas de droit naturel, parce que le droit absolu, ça n'a pas de sens, parce que les droits sont des rapports, et parce que la notion de chose est une notion vague et qui ne renvoie pas grand-chose. Par contre, si je dis que la propriété est la garantie que la loi apporte à des espérances légitimes, alors là, par paraphrase, on doit pouvoir se ramener à des entités réelles Et ça, c'est effectivement un bon usage, un usage non fallacieux du terme propriété. Alors, je reviens à la position du propriétaire. Chez Bentham, donc, il n'y a pas de droit naturel, on l'a assez dit, tous les droits sont des artifices. Je crois que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie normative de la nature humaine chez Bentham. Par nature, tous les êtres humains ont un corps, un esprit, des sensations, des intentions, en vertu de quoi ils éprouvent des plaisirs et des peines, veulent éprouver plus de plaisirs et moins de peines, et donc ils calculent, ils parlent et ils agissent dans ce but. Il y a donc bien quelque chose comme un substrat anthropologique irréductible chez Bentham, comme un dispositif anthropologique qui est à la fois fondamental et universel. C'est la faculté de pâtir, la préférence qu'on accorde au plaisir sur les peines, et l'aptitude à rechercher le bonheur par le calcul, la parole et l'action. Mais, et là on voit ce qui distingue très radicalement Bentham de Locke et Hegel, l'anthropologie benthamienne, ce substrat anthropologique, ne se laisse pas qualifier rigoureusement en termes juridiques. C'est une anthropologie physique qui se dit dans les termes de la physiologie, c'est-à-dire qui mobilise le vocabulaire de la médecine. C'est d'ailleurs tout à fait explicite chez Bentham, j'ai zappé la citation pour gagner du temps, mais vous la trouvez, je ne sais plus où d'ailleurs. Enfin, bref, elle existe.
Oui, c'est...
Je vous la retrouve. Mobiliser des termes juridiques pour désigner ces identités réelles, ce serait fallacieux. Parce que ça donnerait à penser que les hommes ont des droits, même au sens moral, anti-juridique, etc. Bonheur, c'est pas le cas. L'homme éprouve des plaisirs et des peines, il préfère les premières secondes, ça ne lui confère aucun droit à la réalisation de ses préférences. Il n'y a donc pas de possession, il n'y a pas d'appropriation de soi, il n'y a pas de propriété interne dans l'anthropologie benthamienne, c'est sûr. Enfin, quand même, il y a une anthropologie benthamienne. Bon. Donc, il est assez vain de parler d'une théorie anthropologique. Alors oui, pardon, j'ajoute aussi que chez Bentham, il n'y a pas de moi dans cette anthropologie fondamentale, dans cette physiologie naturelle. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'unité physiologique du moi. Il y a des plaisirs, des peines, il y a des actions, des paroles, des calculs, il y a des intentions et des volitions, mais on pourrait très bien imaginer des machines schizoïdes. On pourrait très bien imaginer un chaos de flux, on pourrait très bien imaginer un champ de pulsion, on peut imaginer tout un tas de choses. Le moi n'est pas une réalité physiologique chez Bentham. Et donc je suis mal paré parce qu'il n'y a pas d'ownership et il n'y a pas de moi. Mais je vais quand même essayer d'aller trouver un self-ownership. Et ça, c'est parce que j'ai le moral. Imagination. Donc il peut se priver de plaisirs immédiats pour en jouir plus tard, et il peut atteindre la réalisation de ses jouissances différées. Et c'est précisément parce qu'il est capable d'imaginer des jouissances futures qu'il peut espérer, calculer, agir, de sorte qu'elles se réalisent. Donc, concept central de l'anthropologie néthanienne, le concept d'attente. L'attente qui permet la jouissance différée. Et donc, la possession physique. Alors, j'essaie d'avancer. Alors là, il se passe quelque chose de très important. Parce que la fiction de la possession physique est donc quelque chose qui est une... C'est une bonne fiction. C'est un artifice utile, c'est pas une chimère. C'est une fiction qui permet d'élargir les jouissances en les différents. Seul problème, elle reste misérable et précaire, parce que si je cache mon animal dans la grotte, peut-être on va me découvrir, peut-être la personne qui le découvrira sera plus grosse que moi, plus forte que moi, et va me le voler. Et donc ça amorce un mouvement conceptuel décisif, qui est que la condition naturelle de l'homme est extrêmement insatisfaisante, parce qu'elle n'offre que de petits plaisirs volés. Et donc, Bentham décrit certes la nature humaine en termes médicaux plutôt que juridiques, mais, comme dans les meilleures Robinsonades, il décrit un état de nature instable et insatisfaisant, qui appellent des artifices correcteurs, dont on va voir que, évidemment, eux se disent en termes juridiques. Et là, on voit quelque chose qui est important, c'est que, alors je cite, « La médecine a pour base des actions de pathologie physique, la morale est la médecine de l'âme, la législation en est la partie pratique, elle doit avoir pour base des actions de pathologie mentale. » Bien, donc, certes, dans l'anthropologie naturelle bentamienne, il n'y a pas de droit, mais la pharmacopée qui permet de résoudre les maladies naturelles, elle est à la fois imaginaire et juridique. Et on va se rendre compte que la possession physique doit être prolongée par la garantie légale de cette possession physique, c'est-à-dire la propriété, qui va devenir l'instrument de la constitution imaginaire du moi. Alors ça, c'est le cœur de mon argument, puis après je vais m'arrêter, je n'ai plus le temps de dire le reste. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, dans la capacité que j'ai à différer des jouissances, je ne mange pas tout de suite la bête que j'ai chassée, je la garde pour demain. Pourquoi je la garde pour demain? Parce que je m'imagine le plaisir que je vais avoir à la manger demain. Et ce faisant, ça c'est du clairo cité mot à mot, ce faisant, je fais quoi? Eh bien, j'invente le temps subjectif. C'est-à-dire, j'invente le temps dans lequel je vais calculer, vouloir agir. J'invente l'espace temporel dans lequel va s'inscrire mon action. Et pour ce faire, je dois m'identifier à l'image mentale de ce moi futur jouissant des jouissances différées. Et donc, qu'est-ce que c'est l'identité personnelle chez Bentham? C'est l'identité de ce qui n'est pas un moi au présent, c'est l'identité de cet être souffrant présent et de l'être futur projeté, satisfait et guéri des souffrances actuelles. Et donc, il y a une identité personnelle qui se construit précisément dans la construction d'un temps subjectif qui va être le temps de la volonté, le calcul, l'action, c'est-à-dire le temps de la liberté. Et donc, je retrouve chez Bentham le fait que l'identité personnelle et la construction de la subjectivité libre, c'est pareil. Et l'identité personnelle, elle se construit non pas comme chez Locke dans la conscience des actions passées, non pas comme chez Hegel dans l'identité de la volonté, mais dans l'identification à un moi imaginaire futur. Et donc, il y a bien constitution de l'identité personnelle, mais constitution de l'identité personnelle comme constitution imaginaire de l'identité personnelle. Et dans cette constitution imaginaire de l'identité personnelle, la propriété est l'élément crucial. Pourquoi c'est l'élément crucial? Parce que quand il n'y a pas de propriété, je ne peux pas me projeter dans l'avenir, je ne peux pas réaliser cette constitution imaginaire de moi. Et donc la propriété, elle rend possible l'invention du temps en domestiquant le désir de jouissance immédiate, elle permet de produire l'idéal du moi, elle crée et garantit l'espace psychique que requiert la constitution imaginaire du moi. Sans propriété, je ne peux pas me donner un idéal de moi sans délirer chez moi. Alors vous allez me dire, on n'y est pas encore. Et vous avez raison, on n'y est pas encore, parce que là, la propriété naît, d'abord c'est pas la propriété de soi, c'est la propriété des choses matérielles, et ensuite ça n'est qu'une condition et non pas une équivalence. Donc je ne suis pas encore dans le dispositif que je décrivais. Alors, d'accord, mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que je distinguais la détention actuelle la distance de tension actuelle des biens et les jouissances actuelles du futur. Ce qu'il faut voir, c'est que chez Bentham, il n'est pas seulement question de propriété des biens. Il est question de propriété des utilités, des jouissances que ces biens confèrent. Et les biens que je possède aujourd'hui, je possède par exemple une bête. Cette bête, je peux en jouir en la mangeant et elle va me produire des utilités actuelles. Mais je peux aussi la vendre et je peux placer la somme que j'aurai récoltée à la caisse d'épargne pour pouvoir acheter une maison à mes enfants, pour que mes enfants puissent jouir des loyers de cette maison. Et donc, les utilités futures des biens présents ne sont pas seulement des utilités, ce sont des biens eux-mêmes productifs d'utilité. Et donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose comme un processus qui n'est peut-être pas dialectique, mais qui est en tout cas un processus d'accumulation dans lequel les biens présents produisent des utilités futures qui sont eux-mêmes les biens futurs d'utilité encore future. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'identifie non pas seulement immédiatement et quasiment statiquement à un moi qui jouerait des biens présents, mais je suis capable de me projeter bien au-delà. Je suis capable de me projeter dans la propriété de biens qui seront des biens à moi, qui, etc., etc., et qui produiront des utilités futures. Dans ce sens, Bentham est absolument clair, ces biens imaginaires futurs sont une partie constitutive de ma personnalité. Alors, j'ai une citation, je la cite, parce que vraiment, elle est tout à fait étonnante. Non, je ne la trouve pas, tant pis. Il dit, je suis désolé, il dit, tout ce que je possède actuellement ou que je dois posséder, je le consigne dans mon imagination comme devant m'appartenir toujours. J'en fais la base de mon attente, l'espérance de ceux qui dépendent de moi. C'est du monde, du Bentham, du monde, je vous passe la difficulté que ça pose. J'en fais la base de mon attente, l'espérance de ceux qui dépendent de moi et le soutien de mon plan de vie. Ainsi, la propriété devient partie de notre être et ne peut plus nous être arrachée sans nous déchirer au vif. Et donc, le moi est un être imaginaire chez Bentham. Et cet être imaginaire, il n'est pas constitué que de la figure abstraite d'un moi jouissant. Il est constitué d'un être qui est propriétaire de biens futurs et de biens futurs de biens futurs et d'utilité future de biens futurs. Et là-dedans, il y a évidemment quelque chose comme une propriété, certes imaginaire, de biens, certes imaginaire, de soi. Je suis propriétaire de moi en tant que je suis propriétaire de biens imaginaires qui sont une propriété constitutive de moi. Alors vous allez me dire, c'est une propriété bien bizarre. Oui, c'est une propriété bien bizarre. Chez Bentham, on a imaginé un moi imaginaire, mais c'est tout de même une propriété de soi.